Église San Pedro. Bienvenue.
Sirresa
est le premier village de la
Valle de Hecho,
à 882 mètres d'altitude. Il y a dans la zone des preuves de présence de populations humaines remontant à la préhistoire. De l'époque romaine subsiste la chaussée qui traverse le col de Pau. Il s'agissait d'une voie importante et nous savons qu'il y eut un établissement de population associé à cette dernière qui put perdurer. Jusqu'à la fin du Xe siècle, le passage du chemin de Saint-Jacques à travers les Pyrénées se faisait essentiellement par ce col. Il perdit ensuite de son importance au profit du col du Somport. Mais malgré la profondeur de ses racines, l'histoire de
Sirresa
est intimement liée au monastère San Pedro. Au XIXe siècle, le village intégra la municipalité
de Hecho.
Il comptait 115 habitants en 2017. L'histoire. Du monastère, il ne reste aujourd'hui que l'église. Elle fut construite sous le patronage de San Pedro. Mais quand ? Au sujet de la chronologie du bâtiment et du style dans lequel il s'inscrit, il y a divergence d'opinion. Le débat se situe entre ceux qui affirment qu'il est de style carolingien et fut bâti au IXe siècle, et ceux qui affirment qu'il est de style roman et bâti au XIe siècle. Le dernier travail réalisé soutient que la seconde hypothèse est la bonne. L'église que vous avez sous les yeux est romane du XIe siècle. Il n'y avait donc pas d'église auparavant ? Si, mais pas celle que vous voyez. En l'an 833, le comte
Galindo Aznárez I
donna des terres pour ériger le monastère. En l'an 848,
San Eulogio de Córdoba,
en visitant le monastère, fut surpris par la bibliothèque et les nombreux moines qui étaient alors présents. Il écrivit à leur sujet. Ces moines, presque plus de 100, brillaient comme des étoiles dans le ciel. L'expédition
de Almanzor
contre le royaume de Pampelune en 999 provoqua le dépeuplement de plusieurs monastères en Aragon et en Navarre, avec parmi eux le monastère San Pedro de Sirresa. À la fin du XIe siècle, le roi
Sancho Ramírez
établit dans cette église qu'il a nommée Chapelle Royale une communauté de chanoines réguliers qui suivent la règle de Saint Augustin. Suivant la volonté de son frère le roi, la comtesse
Doña Sancha
dirigea la vie du monastère. Elle y éduqua son neveu,
Alfonso I el Batallador.
Il semblerait qu'à cette époque fut construite la grande église que nous contemplons aujourd'hui, à l'emplacement de l'église antérieure. À la moitié du XIIe siècle, elle est placée sous la tutelle de la cathédrale de
Jaca.
Il est arrivé jusqu'à nos jours des informations affirmant qu'au XIIIe siècle, l'église était en ruine. L'évêque de
Huesca et Jaca
ordonna une restauration et l'installation de 13 clercs qui, entre autres fonctions, seraient chargés de l'accompagnement spirituel dans la vallée. À la moitié du XIVe siècle, un incendie de la sacristie provoqua la perte de plusieurs éléments liturgiques. Au XXe siècle, deux restaurations ont eu lieu à deux moments différents. La première intervention eut lieu entre 1946 et 1948. En 1979, plusieurs pièces sont perdues. L'église a subi la visite de la bande d'un voleur d'œuvres d'art connu sous le nom d'Éric le Belge. Peu de temps après, la bande fut démantelée en Catalogne et ses membres entrèrent en prison. Après avoir accompli une partie de sa peine, le célèbre voleur négocia sa liberté provisoire en échange d'informations sur l'endroit où se trouve un grand nombre d'œuvres volées. Il ne fut malheureusement pas possible de récupérer toutes les pièces volées. Si vous pouvez accéder à l'intérieur, vous verrez qu'un des retables est incomplet. Les planches polychromes manquantes sont toujours introuvables. La seconde restauration du XXe siècle eut lieu entre 1990 et 1995. Des fouilles archéologiques ont également été réalisées à différentes époques. L'église. Elle a un plan en croix latine. Une nef unique avance vers le presbytérium et l'abside orientée à l'est. Au-dessus de la croisée du transept s'élevait une tour-lanterne qui avait disparu. Une tour-lanterne est un élément architectural qui s'élève à la croisée du transept des églises, c'est-à-dire là où se croisent la nef principale et le transept. Elle est généralement de plan carré ou octogonal et comporte des fenêtres qui apportent de la lumière naturelle à l'intérieur de l'édifice. Lors de la restauration de 1946-1948, une voûte d'arête fut construite à la place de la tour. La tour put être reconstruite lors de la restauration de 1990-1995, car la base des murs de la tour-lanterne avait été conservée, On peut même voir des vestiges des deux fenêtres. Placez-vous à présent devant le mur qui se situe au pied de l'église, c'est-à-dire du côté opposé au chevet. Il a trois corps. Celui du centre est en avant et, en son sein, trois archivoltes décroissantes entourent la porte en arc déprimé. La légende raconte qu'il y a très longtemps, un berger qui gardait son troupeau découvrit une grotte. En regardant, il y vit une femme avec un corps de serpent qui se coiffait face à un miroir. Elle était entourée par une grande quantité de trésors qui brillaient malgré le peu de lumière. La croyant distraite, il se glissa à l'intérieur sans faire de bruit, prit un calice qui resplendissait plus que les autres objets et se dirigea précautionneusement vers la sortie. Quand il fut presque dehors, la femme sentit sa présence, se retourna et vit l'intrus emportant le calice. Le berger s'enfuit en courant, à juste titre, puisqu'il était poursuivi par une sorcière. Quand elle fut à deux doigts de l'attraper, il arriva devant cette porte. Il demanda à San Pedro de le laisser entrer et de lui offrir sa protection. Il put entrer et la porte se referma derrière lui. La femme était si fâchée qu'emportée par la colère, elle donna un coup de queue contre le portail et se transforma en pierre pour toujours. Si vous vous approchez des pierres de taille qui forment un banc dans le couloir de l'entrée, vous verrez l'empreinte qu'elle a laissée dans une des pierres. Pour continuer la visite, dirigez-vous vers le mur nord. Sous cette fenêtre, le contrefort marque l'emplacement de l'absidiole visible depuis l'intérieur. Si vous vous éloignez suffisamment, vous découvrirez un élément qui mérite d'être étudié. Vous voyez la sculpture en haut du bâtiment ? Elle représente deux personnages agenouillés qui s'embrassent. C'est le moment de vous diriger vers le chevet. L'abside est semi-circulaire. Les murs sont renforcés par des contreforts. À la hauteur de la base des ouvertures, leur forme est modifiée. Pour continuer, vous devez contourner l'église en déviant légèrement par la rue d'en bas. Quand vous êtes presque au pied de l'église, tournez à nouveau légèrement à droite pour vous approcher du mur sud. Il est l'accès actuel au bâtiment. Si vous pouvez le visiter, n'en manquez pas l'opportunité. Intérieur. La nef est divisée en trois pans par des arcs doubleaux. Elle est couverte d'une voûte en plein cintre, tout comme pour le presbytérium, les bras du transept et la croisée. Mais en parlant de la croisée du transept, vous vous souvenez qu'elle accueille une tour-lanterne ? Vous avez vu à quoi elle ressemble vue de l'intérieur ? Nous supposons qu'à l'origine, elle put avoir une voûte hémisphérique. Depuis la dernière restauration, c'est la voûte en plein cintre que vous voyez. À gauche, au pied de l'église, se trouve la tribune. En vous approchant, vous y verrez deux fonts baptismaux. Le plus simple semble d'époque romane, on dit qu'il servit au baptême
de Alfonso I el Batallador.
Il y a plusieurs éléments de grand intérêt à l'intérieur de l'église. Parmi eux, mettons l'accent sur les sculptures de la Vierge et du Christ. Les deux sont de style roman du XIIIe siècle. Le Christ a été caché à l'intérieur de l'église afin de le protéger quand il fut en péril. La trouvaille fut fortuite. En 1995, en travaillant à la restauration de l'édifice, il fut découvert caché dans une niche en retirant un autel du bras sud du transept. Il était en position horizontale. Ceux qui l'avaient caché ainsi avaient séparé les bras du torse et les avaient posés à côté du corps. Les experts ont établi qu'ils avaient agi ainsi pour mieux conserver la sculpture. Quand vous finirez la visite, en sortant du bâtiment, ne manquez pas l'occasion de faire une petite balade dans le village. Vous profiterez de l'architecture traditionnelle et de la vue sur les montagnes.